Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On a abordé la dernière fois le sens du mot église. Est-ce que ce mot église apparaît encore aujourd'hui dans le... est-ce qu'il est dans le Nouveau Testament, ce terme église? On sait qu'on voit qu'il apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Est-ce que les apôtres l'abordent, l'emploient?
Oui, très nettement, puisque Saint Paul, à chaque fois qu'il s'adresse à une communauté qu'il a fondée, leur envoie des lettres et les désigne comme église de Dieu. Église de Dieu qui est à Corinthe, Église de Dieu qui est à Colosse, Église de Dieu qui est à Philippe, etc. Église de Dieu qui est à Thessalonique, ou l'Église de Dieu qu'il va visiter à Rome, etc. Donc ce mot Église a une dimension, je dirais, locale, mais en même temps, très vite, on comprend qu'elle a une dimension en même temps universelle. Et les Actes des Apôtres, par exemple, nous dit en Actes 20-28, « Soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien. » On s'adresse donc au chef de la communauté chrétienne que Paul a rassemblée, convoquée à Milet. Et il leur dit donc qu'ils sont les gardiens de cette communauté, c'est les ancêtres un peu de nos... épiscope. Qu'est-ce que c'est qu'un épiscope? C'est quelqu'un qui veille sur. Et ils sont gardiens pour paître l'Église de Dieu. Vous voyez, c'est toujours l'idée du pasteur. Jésus est le grand pasteur, comme dira l'Épître aux Hébreux, mais les pasteurs sont délégués, ils participent de la vie du Christ. Nous sommes participants du Christ, chacun selon ce que nous sommes comme membres du Christ. Et les évêques, les prêtres paissent l'Église de Dieu. Donc, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau. On peut dire que par rapport à la première alliance, cette convocation qui a eu lieu effectivement en Égypte, par le passage de la mer Rouge et l'arrivée au désert, ici, il y a une convocation qui n'est pas à travers... ce miracle des origines, mais à travers le sang du Christ. Donc il y a quelque chose, on peut parler d'un nouveau peuple de Dieu, de par le fait que ce sacrifice du Fils bien-aimé du Père est tout à fait nouveau. L'Église qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. C'est pour cela que le mot « Kyrie » est important, le mot « Seigneur », c'est l'Église du Seigneur Jésus. Et très vite, on a compris que Jésus était Seigneur, c'est-à-dire Dieu, et ce mot « Seigneur » est resté dans les désignations du mot, je dirais, « Église », puisque vous le voyez par exemple en Grèce, par exemple, comment désigne-t-on l'Église? On dit « Kyriaké ». Kyriaké, ben, c'est le lieu du Seigneur, c'est la Kyriaké. Ou alors, en anglais, « Church », ou Kirke en Allemagne, eh bien, c'est la maison du Seigneur. Et, c'est très beau, ça désigne quelque chose qui appartient au Seigneur, celle qui appartient au Seigneur. Les Russes insisteront plutôt sur l'aspect communautaire que nous avions développé dans l'émission précédente. Ils diront Sobor. Sobor, ça veut dire communauté. Donc vous voyez, chacun a pris... quelques éléments du mystère, mais toujours, c'est bien Jésus, notre Seigneur, qui nous rassemble. Ça, c'est très beau. Et ce mot, donc, nous dit bien que c'est un rassemblement immense, puisque « catholicos » veut dire « selon le tout, selon l'univers entier ». C'est l'univers entier qui se rassemble, même dans une église particulière. C'est très touchant de penser que l'Église universelle, c'est parce que Jésus a fondé l'Église universelle, est présente dans chacune des communautés particulières.
Et comment Dieu appelle-t-il, convoque-t-il son peuple? Est-ce qu'il y a un mot de la part de Dieu? Est-ce qu'on considère que les cloches aujourd'hui sont le signe de ce rassemblement? Et est-ce que nous, il faut qu'il y ait un déplacement? Est-ce qu'il y a un signe repérable du fait qu'on est rassemblé? Comment ça se passe, ce rassemblement, cette convocation par Dieu?
Alors, d'emblée, selon le rythme de l'Ancien Testament, chaque sabbat, la communauté juive se rassemblait, mais comme Jésus est ressuscité, je dirais, après le temps du tombeau, qui était un temps de parfait, je dirais, accomplissement du sabbat, puisque le sabbat, on ne devait rien faire. Jésus a respecté dans sa mort, depuis le vendredi saint au soir, tout le samedi, il est resté au repos de Dieu, et il est ressuscité le troisième jour, le dimanche au matin. Et donc l'Église, petit à petit, a pris la tradition, puisque c'était un commandement positif, donc qui n'est pas applicable toujours et partout comme les commandements négatifs, mais applicable d'une manière générale. On a pu modifier une partie de ce commandement du sabbat en le substituant au commandement du dimanche. Et cela montre la grande liberté de l'Église et la grande liberté de Jésus, celui qui nous avait enseigné qu'il était maître même du sabbat, et qui est déjà traduit dans les tout premiers textes du Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Apocalypse, il nous est dit que c'était le premier jour de la semaine que Saint Jean, ou l'auteur de l'Apocalypse, qui se trouve dans l'île de Patmos, reçoit une invitation à entendre ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui inspire et lui donne donc la connaissance de ce qu'il doit transmettre. On nous dit bien au verset 10 du premier chapitre de l'Apocalypse, « Je tombais en extase le jour du Seigneur ». C'est ça, c'est ce jour du Seigneur, le dimanche. Dimanche veut dire qui appartient à Dominus, qui appartient au Seigneur. C'est en langue romanche, le dimanche.
Et au numéro 752, on lit que l'Église qui est rassemblée, cette assemblée liturgique, vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Comme si chaque dimanche était l'occasion de fortifier un peu ce corps du Christ qu'est l'Église.
Oui. Chaque assemblée réelle et pas seulement virtuelle, resserre ses liens, permet que la grâce soit transmise à chacun et que chacun, recevant ces grâces, puisse continuer dans la vie quotidienne à être semence du royaume, semence d'Église autour de lui dans ses activités professionnelles, familiales, dans ses activités même, je dirais, de détente. Il doit toujours songer qu'il est chrétien. On n'est pas chrétien seulement le dimanche à la messe, on est chrétien tout le temps. Et on doit être toujours ajusté à cette parole qui nous a fait vibrer, qui nous a enseigné, qui nous a donné des grandes lignes à suivre. Et c'est vrai que parfois il y a des épreuves collectives à subir dans l'histoire des siècles. Nous le voyons bien, les églises ont subi des attaques, des tentations, parfois même au-dedans. Et le fait de se rassembler permet d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises, selon la belle expression de l'Apocalypse. L'Esprit parle aux églises, et nous avons besoin donc d'être attentifs. Obéir, qu'est-ce que ça signifie dans l'étymologie? Upo akouagne, ça veut dire entendre en se mettant sous la voix de quelqu'un. Donc il faut bien, un jour ou l'autre, aller sous la chair de vérité, comme on disait autrefois dans les églises, ou en face de celui qui nous enseigne au micro à partir de l'évangile qui est proclamé par le diacre et qui est commenté par le prêtre ou par l'évêque dans une homélie, une sainte homélie qui fait partie des actes liturgiques importants d'écoute du commentaire de la parole de Dieu pour actualiser cette richesse qui est déjà en nous depuis notre baptême, mais que nous avons besoin sans cesse de faire passer de la puissance à l'acte. Il ne suffit pas d'être, chrétien idéaliste. Vous vous souvenez ce que disait Peggy avec humour, ils sont purs, tous ces hommes de notre temps, mais ils n'ont pas de main. Ils ne passent pas à l'acte.
Ah oui.
Et donc ça ne suffit pas d'être convoqué et d'entendre de belles choses. Après, ben, il faut passer à un agir. Mmh. Et cet agir dans le quotidien est important. L'engagement du chrétien dans la cité, l'engagement du chrétien dans son travail, dans sa famille, dans ses détentes, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, doit être marqué par cette christo-conformité. Le baptême nous christo-conformise à Jésus-Christ, et c'est accentué par le sacrement de la confirmation, hein, qui est explicité déjà en Actes des apôtres au chapitre 8, où on voit les apôtres eux-mêmes aller vers ceux qui ont été baptisés par le diacre Philippe et qui imposent les mains. C'est-à-dire, nous avons besoin non seulement d'un baptême, une petite semence, mais que cette semence soit fortifiée par le sacrement de confirmation. Et le sacrement de confirmation est donc très important pour tenir, parce que on lutte contre vagues et marées dans la vie, contre toutes les épreuves de la vie, et on est souvent ballotté. Hein. Et pour ne pas sombrer, couler, eh ben, nous avons besoin de l'aide superlative de la grâce, nous avons besoin de tenir Jésus-Christ dans l'esprit, et de tenir sa main, si jamais nous coulons un peu, comme saint Pierre l'a connu dans le lac de Génézareth, il a coulé un moment, hein, souvenons-nous, et Jésus lui a pris la main et l'a remis dans la barque. Et nous avons besoin souvent des sacrements, le sacrement de confirmation pour nous renforcer, le sacrement de pénitence aussi, si nous avons commis quelques doutes intérieurs qui iraient jusqu'au péché et qui nous empêchent d'être dans la grande parésia, c'est-à-dire cette grande liberté des enfants de Dieu.
Et là, est-ce que la barque sur laquelle Jésus remet Pierre, on peut penser que c'est l'Église ?
Eh bien, bien sûr. Très souvent, on a pris ces grands événements de la vie du Christ comme des images de l'Église. Mmh. Il y a avec Pierre au centre, mais Jésus, bien sûr, qui surpasse ce centre, puisqu'il est vraiment celui qui donne le souffle à ce bateau. Mais en même temps, il y met bien Pierre. Hein. Il met Pierre au centre de l'Église, et nous avons toujours à vénérer Pierre, à prier pour lui, comme l'a fait l'Église primitive. Qui n'est plus avec Pierre risque de sombrer.
Merci frère Édouard.
À bientôt.
À bientôt.